On est toujours donc sur Radio Libertaire avec Gérard. Nous accueillons François Pesty, troisième partie donc de notre émission consacrée aux innovations thérapeutiques et en particulier aux innovations dans le domaine de la cancérologie avec toutes les difficultés en termes de lobbying qui est fait par les firmes pharmaceutiques pour tenter de survendre ce qu'ils appellent leurs nouveautés, hein, qui, et on l'a bien dit, hein, l'innovation, la nouveauté, ça ne signifie pas forcément le progrès. Et on voit bien toutes les limites méthodologiques, scientifiques à ces soi-disant progrès thérapeutiques. On a abordé un petit peu tout à l'heure la question du prix. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu parce que, effectivement, tout à l'heure, on a commencé l'émission en parlant des économies que vous avez pu faire réaliser à la Caisse d'assurance maladie de l'Aude, simplement en modifiant les prescriptions d'antibiotiques. Et là, le coût d'un traitement par amoxicilline, c'est quelques euros peut-être. Et là, on est. J'ai repéré sur Internet là, quelques chiffres et j'ai lu. Alors, ça vérifie bien sûr, mais. Le prix moyen d'un mois de traitement par anticancéreux de la liste en su, donc de ces médicaments qui sont autorisés de manière très rapide, le prix moyen d'un mois de traitement, il est de 3 866 euros avec des variations très très importantes puisque l'un des médicaments les plus chers, il est facturé aux alentours de 34 000 euros pour un mois de traitement. Il faut comparer ce prix moyen avec le prix moyen mensuel déboursé par Français pour les traitements ambulatoires, qui est de 43 euros. Alors, le véritable problème là-dessus, sous-jacent, hein, c'est-à-dire que ce lobbying forcené des firmes pharmaceutiques pour vendre leur nouveau marché, leur nouveauté, qui ne répond finalement que pour une très petite portion des patients concernés. Hein, vous l'avez dit, c'est des patients. Il y a quelques patients répondeurs qui effectivement peuvent bénéficier de ces traitements, mais l'énorme majorité des autres patients n'en bénéficient que qu'à la marge, voire pas du tout. Et en plus, on a les effets secondaires. Le risque de tout ça, c'est qu'on est dans un système encore solidaire. Est-ce que la sécurité sociale, pour le dire franchement, peut tenir le choc, sachant qu'il y a 89 nouvelles molécules qui sont actuellement dans les tuyaux.
Je vais prendre l'exemple. Donc, le Keytruda, en première ligne dans le cancer bronchique, c'est un coût de traitement annuel par patient de 93 000 euros. Alors, si 83% des patients traités avec ce médicament n'ont aucun bénéfice, vous imaginez le fardeau pour l'assurance maladie pour rembourser ces médicaments.
Dans le meilleur des cas, il n'y a aucun bénéfice, mais aussi des effets secondaires qui risquent d'augmenter.
En seulement un an, l'Opdivo, Nivolumab, c'est l'immunothérapie des laboratoires Bristol-Myers Squibb.
Dans quelle indication ?
Dans plusieurs indications, puisque cette immunothérapie est utilisée dans le mélanome malin, avec un autre médicament en association qui est le Yervoy Ipilimumab de BMS, du même laboratoire. Mais il est utilisé dans le cancer bronchique, dans le cancer de la vessie, je pense. Il y a au moins 3, 4, peut-être 5 indications de cancer. L'Opdivo, en pratiquement un an, est passé devant tous les médicaments anticancéreux de la liste en sus. Il a détrôné l'Avastin, l'Avastin de Roche, et c'est plus de 300 millions d'euros de dépenses en 2017. Premier. Alors, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller regarder les Pharma Papers qui ont été publiés il y a quelques jours et qui devraient. Il va y avoir d'autres épisodes et qui montrent bien. Tous ces problèmes de liens d'intérêt. Les oncologues, d'ailleurs, les Pharma Papers, qui ont analysé l'ensemble des données disponibles de la base Transparence Santé, c'est la première spécialité, l'oncologie et l'hématologie, en montant investi par les firmes, de très très loin. Alors, voilà, donc effectivement, le coût pour la société est énorme. J'ai vu que Là, hier ou avant-hier, le président du Haut Conseil de Santé publique, qui était aux journées de cancérologie, s'est prononcé pour prioriser en premier la lutte contre le tabac plutôt que le dépistage ou les innovations thérapeutiques dans le cancer du poumon.
Alors là, vous abordez une question qui nous est chère ici dans notre émission. C'est effectivement quels sont les choix de santé qu'on peut faire. Alors est-ce que on va faire une. Je reprends les termes qui sont utilisés par une femme qui travaille comme médecin de PMI, mais qui publie aussi beaucoup sur Internet. Elle a un fil Twitter et qui est très très intéressant. Elle s'appelle Claudina Michal Tettenbaum et qui oppose une médecine slow, une médecine lente, une médecine préventive à la médecine qu'on appelle la médecine de précision, qui est une médecine, c'est celle dont on a parlé, hein, l'immunothérapie, les thérapies ciblées, les thérapies géniques. D'un côté, on va faire un effort sur la prévention, et on sait qu'aujourd'hui, un très grand nombre de maladies contemporaines sont liées à nos modes de vie. Tout à l'heure, vous parliez des oméga-3, des vitamines D, et vous compariez effectivement le mode d'alimentation des populations japonaises, esquimaudes, au mode d'alimentation des populations européennes ou nord-américaines. Est-ce qu'on va faire un effort pour limiter et pour tenter de prévenir un certain nombre de pathologies liées à nos modes de vie, ni à notre alimentation, ni à nos façons de se déplacer, de travailler, etc. Ce qui demande une volonté politique, une volonté économique, qui est en contradiction avec celle du système capitaliste libéral tel qu'on le connaît, qui, au contraire, veut, par des calculs d'utilité, plutôt favoriser la thérapeutique. On le voit bien avec l'exemple du Nutri-Score, par exemple, hein, oui. que les firmes agroalimentaires se sont efforcées de torpiller, hein, c'est-à-dire mettre cette espèce de petite échelle de couleur sur les aliments industriels afin de prévenir le consommateur. Ouais.
Alors, je dirais que d'abord, la notion l'hygiène de vie est un déterminant plus important que la médecine, à la limite, pour la santé des populations. Je crois qu'elle est démontrée, au moins sur certains points. Par exemple, l'arrêt du tabac, c'est évident. Le tabac est quand même, comme le disait Albert Hirsch, qui est un pneumologue de la Ligue contre le cancer qu'on avait invité à notre colloque de Bobigny, le tabac est quand même un produit qui tue la moitié de ses consommateurs. Bon, le tabac, l'alcool, l'excès de soda, de sucre, hein, et l'absence d'exercice physique. Voilà, déjà, si ça c'est des choses qu'on sait, on a des certitudes là-dessus. Les autres choses, bon, on voit les oméga-3, la vitamine D, bon, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut savoir aussi gérer l'incertitude en médecine. Bon. Un des points où notre pays latin a énormément de retard sur les pays anglo-saxons, c'est tout ce qui est les problèmes de dysmédicalisation. Aux États-Unis, on parle d'overuse, hein, la surmédicalisation, l'utilisation en excès, et d'underuse, et de misuse, c'est-à-dire quand on utilise mal, et avec le groupe Princeps, hein, dont j'en suis l'un des membres.
On avait invité Jean-Claude Salomon ici même,
voilà,
qui fait partie du même groupe.
Voilà, l'occasion d'en parler. Donc le groupe Princeps, on est 6 ou 7, c'est-à-dire qu'il y a les fondateurs qui sont Jean-Claude Salomon, qui est un ancien chercheur dans l'immunologie du cancer, Michel Thomas, qui est ancien médecin interniste. Nous avons Michel Doré, ancien médecin généraliste, enseignant, responsable du département médecine générale à la faculté de médecine de Bobigny. Alain Siary, qui est médecin généraliste, enseignant et qui est toujours formateur avec la société de formation à la thérapeutique du généraliste, la SFTG, qui est un des partenaires de Princeps. Avec aussi Maïlis Casbah-Michaud, qui est angiologue au CHU de Toulouse. J'espère avoir oublié personne. Donc, on organise depuis 2012, nous avons organisé 7 colloque. Les actes du colloque 2018 seront prochainement en ligne. Et ce sont des sujets qu'on aborde donc depuis 2012, comme je le disais, qui sont encore très, très peu présents ou qui sont... pour lesquels il y a un déni, je vois, en particulier à l'hôpital. Les spécialistes ne viennent pas beaucoup à notre colloque parce qu'ils sont gênés à l'entournure. Hein. Je pense que, franchement, on sous-estime énormément. Alors, je voudrais prendre un exemple sur les médicaments coûteux avec des coûts et des économies possibles, que je connais bien. J'essaye de ne parler que des dossiers que je connais et sur lesquels j'ai mené quelques investigations. C'est le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, oui, et des rhumatologues. Justement, eh bien, figurez-vous que depuis 1996, une étude pivot dans le New England Journal of Medicine, on sait qu'après l'échec du méthotrexate en monothérapie, il y a une triple association conventionnelle de médicaments, de vieux médicaments qui ne coûtent rien. Le plaquenil, hein, le plaquenil, c'est l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui coûte 6 euros la boîte. 6 euros la boîte. La salazopyrine, sulfasalazine, c'est un médicament qui coûte 6 euros la boîte. Le méthotrexate, ces trois associés font, et on avait dès le début des années 2000 et en 2004, on était certain que cette triple association était capable de faire aussi bien que n'importe quelle association méthotrexate avec une biothérapie. Les premières biothérapies sont les anti-TNF-alpha, donc l'infliximab, Remicad, l'Ambrel, donc étanercept. on a bien sûr donc l'adalimumab, qui est l'Humira, qui a trôné en première place en France le médicament le plus coûteux pour l'assurance maladie pendant plusieurs années. Hein. Et j'avais fait le calcul, donc la différence de coût entre la triple association conventionnelle et l'association au méthotrexate d'un anti-TNF-alpha ou de biothérapie non anti-TNF-alpha, eh bien, coûte 14 000 à 24 000 euros de plus par patient et par an. Quand vous avez 100 000 ou plusieurs dizaines de milliers de patients qui sont traités, eh bien, on a ces médicaments, ils représentent plus d'un milliard 500 000 euros de dépenses futiles par an.
Futiles parce qu'elles n'apportent pas.
Oui, alors, elles ne font pas mieux. Alors, non seulement elles ne font pas mieux, elles ne font pas moins bien, pardon, alors, si on prend l'association triple conventionnelle, elle ne fait pas moins bien que les anti-TNF-alpha en termes d'efficacité, c'est-à-dire en termes de contrôle de la maladie. Y compris, il y a des études où on a été regardé dans les bases de données des arrêts de travail et en termes d'invalidité de pension versée aux patients. Hein. Et on a des études avec des suivis de plus de 10 ans. Hein. Et on a des études depuis 2012... On a depuis 2012 des études frontales, bien faites, randomisées, en double aveugle, hein, en crossover, qui montrent cette non-infériorité de cette triple association. Et donc, les rhumatologues en France ne la prescrivent pas. Les recommandations de la Société française de rhumatologie, et j'avais analysé 29 groupes de rhumatologues, dont le bureau, le conseil d'administration, les différentes commissions de la Société française de rhumatologie, dont j'ai fait aussi une analyse du contenu détaillé des programmes du congrès annuel de la Société française de rhumatologie. J'ai fait une réactualisation que j'ai présentée au colloque de Bobigny, qui sera bientôt en ligne. J'ai démontré les biais, mais c'est de la tricherie dans les recommandations de la Société française de rhumatologie. Quand on cite une étude pour critiquer la triple association de médicaments conventionnels et que dans cette étude, aucun bras n'a été mis sous cette triple association, il y a quand même un gros problème. Hein. Ce sont des sociétés qui ont leur propre revue, qui ont des gros moyens financiers, qui font un colloque extraordinaire avec au moins 5 manifestations simultanées dans 5 salles différentes et qui ont démonté sur un atelier la triple association conventionnelle à quelle place dans la polyarthrite rhumatoïde en 2016, je crois, et où ils ont dénigré les les trois intervenants à cet atelier totalisaient peut-être 200 000 euros de rémunération et de montant. Enfin, bon, c'est fou. Et donc,
ce que vous montrez là, dans,
ce que je veux dire, c'est que ces rhumatologues se mentent à eux-mêmes, mentent à leurs patients. Et mentent à leurs collègues dans les actions de formation continue qu'ils font dans les congrès. Il y a une notion qui a été d'ailleurs détaillée par Prescrire dans un de ses articles, il n'y a pas très longtemps, la revue Prescrire, qui est indépendante, qu'on appelle la dissonance cognitive. Les gens vont s'auto-persuader parce que des fois, ils sentent qu'ils ont un conflit. Qu'ils ont des comportements qui sont en opposition avec leurs croyances. Et bien, c'est la croyance qu'ils font évoluer. C'est-à-dire qu'ils s'assoient dessus, quelque part, et ils disent « Ah ben, non, la triple association n'est pas aussi efficace que... » Voilà, ils se disent « Non, bon, à circuler, il n'y a rien à voir. » Et voilà, et ils ont la conscience tranquille, et voilà. Ça s'appelle la dissonance cognitive.
Festinger, oui, c'est... Une vieille observation.
Il y a beaucoup trop d'argent aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'argent, notamment dans les spécialités médicales. Et on le voit d'ailleurs, les moyens, ce n'est pas un hasard si ce sont les oncologues et les hématologues qui sont les bénéficiaires d'autant de générosité de la part des firmes pharmaceutiques.
Cet exemple que vous donnez donc du traitement de la polyarthrite rhumatoïde, hein, qui est une maladie très invalidante, qui évolue sur de longues années, cet exemple est démontre bien cette folie du système dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que, en fait, là encore, c'est de l'argent public, c'est de l'argent collectif, qui est gaspillé à mauvais escient.
J'ajoute que, par exemple, la Haute Autorité de Santé, jusqu'ici, a été incapable de recommander en deuxième intention, après échec du méthotrexate en monothérapie, cette triple association qui... de toute évidence, serait aujourd'hui. Il y a les études frontales, mais il y a aussi une méta-analyse en réseau, publiée avec une analyse Cochrane, abrégée, systématique, qui a été publiée dans le BMJ en avril 2016, ça fait 2 ans, qui n'a même pas été reprise dans les sujets du congrès, des 2 derniers congrès de la SFR, et qui conclut que la meilleure option, même en première intention, alors, assurément, en deuxième intention, après échec du méthotrexate, mais chez certains patients, peut-être même en première intention, c'est la triple association conventionnelle. Eh bien, la HAS n'a même pas été capable. Alors, le problème de la HAS, c'est qu'elle manque sans doute de moyens, et les budgets sont pas... Les allocations par l'État, de son budget de fonctionnement, qui est financé par l'assurance maladie, est certainement insuffisant pour travailler sérieusement un certain nombre de dossiers. Celui-là, il est évident qu'il y a eu tout un tas d'occasions manquées par la commission de la transparence et les immunothérapies. C'est pareil, ne pas s'apercevoir qu'on traite inutilement 83 à 94% des patients qui sont sous traitement d'immunothérapie ou de thérapie ciblée, c'est quand même incroyable.
François Pestis, qu'est-ce qui pourrait justifier le prix du médicament? On a l'impression, depuis qu'on est passé dans l'ère de ce qu'on appelle les biothérapies, c'est-à-dire avant on avait des petites molécules traditionnelles que l'industrie pharmaceutique sait bien faire depuis longtemps, là on passe à des produits qui sont de l'ordre des produits du domaine de vivant. Il faut le dire, on parle de humab beaucoup depuis tout à l'heure, ce sont des anticorps, comme ceux qu'on produit, mais produits artificiellement. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? Est-ce que la recherche coûte beaucoup plus cher?
Non, alors là aussi, il y a beaucoup de travaux anglo-saxons, essentiellement. par exemple, on a su que, par exemple, le Soldavie, Sofosbuvir, dans l'hépatite C, la firme Gilead a racheté pour 11 milliards Pharmacet, qui était une biotech, et en quelques mois seulement, ils ont dépassé 40 ou 50 milliards de revenus. Ils ont payé cet investissement, a eu un retour sur investissement qui est formidable. On a su que Gilead, quand il a négocié son prix, le critère, c'était très simplement... le prix le plus haut que l'État français, le marché, était prêt à consentir. Mmh. Voilà. Et donc, on est dans des absurdités sans nom. Et non, rien ne justifie ces prix-là. Alors hier, par exemple, il y a eu deux députés, dont, notamment une députée, qui a proposé un amendement pour demander l'activation de la licence obligatoire quand c'était nécessaire. Bon, l'amendement a été rejeté. Hein, et le rapporteur général Olivier Véran, neurologue, Olivier Véran a défendu la ministre précédente qui avait obtenu un discount, une remise. Le médicament ne coûtait plus que 24 000 euros la cure de traitement. Bravo. Et donc, c'était suffisant parce que sinon, on risque de fragiliser l'attractivité sur le sol français pour les essais cliniques, pour les firmes pharmaceutiques mondiales. Alors, j'ajoute, c'est important que lors d'une interview de Philippe Lamoureux, qui est le directeur général du LEM, Philippe Lamoureux.
Le LEM, c'est le syndicat
des industriels du médicament. Philippe Lamoureux, que j'ai rencontré une fois, qui m'avait, justement, lorsque j'essayais de proposer cette visite médicale indépendante des firmes, m'avait donné une recommandation que j'ai utilisée et d'ailleurs qui a marché, puisque j'ai pu rencontrer grâce à lui, à l'époque, il était haut fonctionnaire de l'État, il dirigeait l'INPES, hein, c'est-à-dire l'Institut National de Prévention et d'Éducation Sanitaire. C'est l'organisme qui, à l'époque, parce que ça a été fusionné depuis, claquait l'argent gouvernemental, le plus d'argent gouvernemental en promotion et en communication affichée, télévision, etc., sur des situations sanitaires. Et donc, Philippe Lamoureux, qui quelque part pantoufle maintenant un haut fonctionnaire qui est passé dans le privé, qui pantoufle dans le privé et un poste stratégique, hein, qui est le directeur général, c'est lui qui fait tourner le syndicat des industriels du médicament. Philippe Lamoureux a répondu à un média anglo-saxon en disant que Emmanuel Macron est perçu par les PDG des 25 firmes les plus importantes au monde comme un pro-business. Pro-business, voilà. Et donc, on est dans un système où c'est le business qui prime sur la santé des patients, sur la qualité de l'information des patients. Les patientes ont le droit de savoir que le dépistage du cancer du sein est plus souvent produit des effets indésirables, plus souvent qu'il n'est bénéfique aux femmes. Ils ont de même façon le droit, les patientes ont le droit de savoir que quand on leur propose de l'Herceptin en traitement adjuvant pendant un an après mammectomie ou plus tard lorsque le cancer du sein est avancé ou métastasé, en sachant, et là par exemple, alors ça c'est aussi un biais qu'il y a au niveau des agences sanitaires, très, très souvent, si on en arrive là, c'est parce que la HAS n'a pas les moyens de faire sa propre bibliographie, hein, approfondie. Moi, j'ai trouvé une étude avec l'Herceptin qui montre que les femmes qui ont eu de l'Herceptin à un stade précoce, lorsqu'elles sont à nouveau, on leur prescrit de l'Herceptin au stade avancé, elles ont 8 mois de survie en moins que ce qu'on appelle les patientes naïves, celles qui n'ont pas eu le traitement. Oui. Hein. Eh bien, Roche n'a évidemment pas présenté cette nouvelle étude publiée lorsqu'il y a eu une révision de l'ASMR par la Haute Autorité de Santé, au niveau de la commission de la transparence. Et donc voilà, si on s'en tient uniquement au dossier favorable que va présenter l'industriel et qu'on ne fait pas, que l'État n'est pas capable de faire d'avoir son propre jugement, de faire une bibliographie, on va où ? Tout Gérard, est comme ça.
Gérard, oui, tu avais une...
Non, juste avec tout ce qu'on a entendu là aujourd'hui, il y a un jeune philosophe américain, qui vient de sortir un livre qui est assez passionnant, qui s'appelle Medical Nihilism, et qui, dont l'argument fondamental et principal est de dire la médecine qu'on vous propose aujourd'hui est beaucoup moins efficace qu'elle ne le prétend. Est-ce que vous seriez prêt à le suivre sur ce terrain ?
Ah oui, 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 bien sûr. Il y a, lorsque les Américains parlent de hype, c'est la pub, quoi. C'est la réclame, faire la réclame. Et on a beaucoup de leaders d'opinion qui font de la réclame. Je veux dire quelque chose là, par exemple. Bon, on a parlé tout à l'heure de l'abrogation des recommandations sur les hypolipémiants par la HAS, qui parce que le Formindep avait saisi le Conseil d'État et que la HAS a regardé un petit peu d'un peu plus près dans Transparence Santé. C'est la première fois qu'il devait se connecter sur le site, probablement. Et ils ont trouvé qu'il y avait des écarts entre les liens d'intérêt déclarés par leurs experts et ce qui était dans Transparence Santé. Bon, la HAS, encore au jour d'aujourd'hui, ne reconnaît pas comme conflit d'intérêt majeur les prises en charge dans des congrès avec des billets d'avion. Moi, j'ai vu des experts prendre des billets d'avion à 9000 euros pour aller à l'ASCO, etc. Et ne prend pas les invitations au restaurant comme des conflits d'intérêt majeurs. Des études ont été faites aux États-Unis et montrent qu'il y a une relation directe entre le laboratoire qui invite au restaurant, même pour un repas de moins de 10 dollars. Un repas de moins de 10 dollars, on voit la prescription par le médecin augmenter significativement après une invitation, voilà, par rapport à d'autres médecins qui n'ont pas été invités au restaurant. Bon. Et donc, la Haute Autorité de Santé, malgré les recommandations de son propre comité de déontologie, il y a plus de 2 ans, qui avait été interrogé par Jean-Luc Arousseau à l'époque, et qui demandait à ce que les invitations dans les congrès soient prises en compte comme des conflits majeurs d'intérêts, eh bien, n'en parle pas. J'ajoute qu'en commission de la transparence, pour le Keytruda, en deuxième ligne, en avril, si ma mémoire est bonne, 2017, sont entrés, comme dans un moulin, un oncologue lyonnais du centre anticancéreux Lyon-Bérard, et une anatomopathologiste, directrice d'ailleurs du Centre régional de lutte contre le cancer de Saint-Étienne, non, de Clermont-Ferrand, pardon. Les deux avaient environ 300 000 euros chacun
de conflit,
d'avantages perçus, de montants de rémunération et de conventions. Et c'est là où ils ont discuté des biotests et notamment du score de proportion tumorale, ce qu'ils appellent le TPS en anglais, pour l'éligibilité au traitement. Alors, ils sont arrivés devant un parterre de membres de la commission qui ne connaissaient rien aux biotests et aux tests d'histochimie, d'immunohistochimie, qui sont utilisés pour déterminer quel est le score de proportion tumorale, le pourcentage de cellules qui expriment PD1 ou PDL1. Et il ne s'est rien passé. Voilà. Alors moi, j'ai demandé en conclusion de la présentation que j'ai faite, qui était justement de dire, est-ce qu'on peut vraiment parler de médecine personnelle ou de précision à propos des nouvelles immunothérapies du cancer ? Eh bien, j'ai demandé à ce que des seuils d'éligibilité plus robustes soient définis par des oncologues, des anatomopathologistes, sans lien d'intérêt avec les firmes. Hein, et que et c'est vraiment très important. Voilà.
J'aimerais qu'on conclue cette dernière partie et cette émission par les mots suivants que j'ai retrouvés là dans votre article. Vous citez Pierre Chirac de la revue Prescrire. Hein. Je pense qu'il n'a pas grand-chose à voir avec l'ancien président de la République. Et donc, dans son audition par l'Assemblée nationale, voilà ce qu'il dit. Innovation veut juste dire nouveau, ça ne veut pas dire progrès, ce dont probablement peu de soignants et surtout peu de patients se doutent. Mais pour les gens dans les jasances, donc comme l'HAS, c'est évident, innovation, ça veut dire nouveau. La plupart des innovations n'apportent pas de progrès tangible pour les patients et certaines s'avèrent de véritables régressions thérapeutiques. Ce constat regrettable, prescrire n'est pas le seul à le faire et, par exemple, des cancérologues des États-Unis ont publié une étude montrant qu'avec les 71 médicaments anticancéreux pour des tumeurs solides mis sur le marché entre 2002 et 2014, l'allongement de la durée de vie n'avait été que de 2 mois seulement en moyenne. Est-ce que les patients sont bien conscients de cela? Probablement pas. Est-ce que les responsables politiques sont conscients de cela? Probablement pas non plus. Voilà. Donc, François Pesty, merci de nous avoir éclairé sur ces questions éminemment compliquées du point de vue politique, économique, mais vous avez donné quelques aperçus tout à fait judicieux. Je voudrais rappeler le titre de votre article que vous avez fait paraître sur le site du Forum Indep, Innovation, accès au marché des nouveaux médicaments, pourquoi accélérer ? Donc on le trouve sur le site du Forum Indep, vous tapez Forum Indep dans n'importe quel moteur de recherche. Vous avez parlé aussi du colloque de Bubini, donc quel est le site du colloque de Bubini ?
C'est surmedicalisation.fr, sans accent, hein, voilà. Surmedicalisation.fr. J'ai également deux sites, un pour une prescription du médicament plus efficiente. Donc c'est pupem.com, P-U-P-E-M.com. Et puis un autre site, il est un peu plus complexe, mais sur aussi la sécurité du circuit du médicament à l'hôpital.
Merci infiniment. À bientôt.
C'est moi qui vous remercie.